Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Ça sera bientôt le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Et Jean-Claude Rivet était conseiller à l'époque, conseiller junior de Robert Bourassa. Bonjour.
Bonjour.
La crise d'octobre, vous l'avez vécue comment, Jean-Claude?
On s'est au bureau du premier ministre avec d'autres. Il y avait Julien Schuller qui était le secrétaire général du gouvernement, Paul Desrochers qui était très présent, et puis le chef de cabinet, M. Bourassa, là, Guy Langlois. Alors moi, par contre, comme on se rappellera que le gouvernement avait siégé finalement au Reine-Élisabeth, là, moi j'ai manqué beaucoup de choses.
Oui.
Parce que j'étais en charge du bureau de Québec, là. Moi, je faisais le lien avec le bureau de Québec, là.
C'est ça. Donc à Québec, il y a quand même eu toutes sortes de choses.
Oui,
la signature de la lettre. Marc Lalonde qui est venu faire signer une lettre. Marc Lalonde est conseiller de Pierre-Éliott Trudeau. Il est venu faire signer la fameuse lettre pour demander les mesures de guerre. Vous n'étiez pas là à ce moment-là.
Je savais que c'était de faire discussion, là, mais je n'ai pas vu la lettre comme telle. Je n'ai pas participé non plus à la rédaction là, de ces trucs-là.
Robert Bourassa a toujours ressenti ça comme l'échec de sa vie, la mort de Pierre Laporte.
Oui. Essentiellement, pour Robert Bourassa, je l'ai dit assez souvent, c'est la crise d'octobre, pour lui, c'est Pierre Laporte.
Mm-hmm.
La personne de Pierre Laporte, le fait de... Il aimait bien la politique, M. Bourassa, comme vous savez, mais sauf que les gens puissent mourir à cause de ça, il trouvait ça invraisemblable. Il s'est resté dans... Le fait qu'il n'a pas réussi, il s'est resté chez lui quelque chose de toujours présent jusqu'à ces derniers jours-là. Je suis convaincu que pour lui, c'était le plus grand échec, je pense, de ne pas avoir réussi à sauver la vie de Pierre.
Est-ce qu'il aurait fallu éviter, continuer de négocier puis éviter la loi sur les mesures de guerre?
Ce qui est arrivé avec la loi des mesures de guerre, mon souvenir, c'est que, évidemment, les services policiers qui n'avaient pas le professionnalisme ou l'expertise qu'ils ont aujourd'hui, là. Ce qui est arrivé, c'est que je pense qu'à un moment donné, ils étaient à bout d'informations, en toute fin pratique.
Mm-hmm.
La loi des mesures de guerre avec les arrestations là de centaines de Québécois, c'était vraiment pour trouver des informations additionnelles. C'était des gens qui étaient plus ou moins qui étaient absolument pas liés à la démarche de FQ, mais qui étaient sympathiques.
Ouais.
Donc est-ce que dans l'esprit des policiers, c'est les policiers évidemment qui ont été les initiateurs de ça, c'était d'avoir des informations additionnelles.
Mm-hmm.
Pour essayer de trouver la... Et dans l'esprit de M. Bourassa, je suis convaincu que c'était perçu comme ça. Pour lui-même, c'était vraiment que les policiers avaient besoin de ça pour avoir des informations additionnelles pour essayer de retrouver Pierre Laporte.
Il y a des gens là, qui demandent des excuses à Justin Trudeau pour le fait que son père a promulgué la loi des mesures de guerre, 500 personnes arrestées sans mandat. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que quand on voit ça, quand on voit que c'est Québec qui a posé, qui l'a réclamé, que Drapeau, le maire de Montréal de l'époque, vraiment était celui qui la voulait le plus, est-ce que c'est à Trudeau à s'excuser?
Et M. Bourassa a approuvé, bien sûr, il a acheminé la demande, il était d'accord, comme je disais, c'était pour, dans son esprit, c'était pour avoir de l'information. Les excuses, c'est évident que les personnes qui ont été arrêtées, ont été très injustement, ils ont subi des traumatismes certains. Je pense qu'après, d'ailleurs, il me semble qu'après la période, il y a eu quelques indemnisations.
Oui, effectivement, il y en a eu, oui.
Puis peut-être la conséquence la plus importante, et ça, M. Bourassa et M. Choquette, Jérôme Choquette, qui à l'époque était le ministre de Justice, ça a été l'adoption de la loi, justement, autant M. Bourassa que M. Choquette et tout le monde étaient d'accord que, évidemment, ces événements-là ne devaient pas se répéter. Ça a donné lieu à l'adoption par le Québec de la Charte des droits et libertés. Il ne faut pas oublier que la première Charte des droits et libertés...
En 1974,
C'est ça, exactement, c'est venu après. Et ça, vraiment, c'était en mémoire des décisions qui avaient été prises et des graves injustices, bien sûr, qui avaient été occasionnées à un nombre quand même considérable de Québécois.
Vous étiez conseiller aussi de Robert Bourassa 20 ans plus tard, lors de la crise d'Oka. Est-ce qu'il était... On dit souvent qu'il était traumatisé par la première crise, puis c'est pour ça que ça l'a influencé dans sa gestion de la seconde crise, crise
d'octobre. Encore là, c'est les valeurs de M. Bourassa là-dessus. M. Bourassa, là-dessus, dans toute cette période-là, il n'y avait pas du tout dans son esprit, il n'a jamais eu, dans son esprit, ça, j'en suis profondément convaincu, une utilisation politique du FLQ à l'encontre de l'option même de la souveraineté. Pour lui, il n'a jamais fait de lien. Il ne voulait pas en faire et il ne pensait pas que c'est qu'il y avait un lien entre les deux démarches. Absolument pas. Et donc, il n'y avait pas de visée politique comme telle. M. Bourassa n'avait qu'un objectif, qu'un seul et unique objectif, c'était sauver la vie de Pierre Laporte. Et quand vous référez à la crise d'Oka, c'était ça un peu aussi. À un moment donné, en fait, c'était les valeurs personnelles là, de M. Bourassa sur le respect de la vie humaine, là. Et quand il est arrivé la crise d'Oka, je me rappelle une réunion auquel j'ai assisté cette fois-là à Québec, d'une réunion limitée du Conseil des ministres. Il y avait l'armée était là, et puis à un moment donné, il y a un général ou enfin un porte-parole de l'armée qui avait dit au premier ministre, Monsieur le premier ministre, si vous nous dites de libérer le pont Mercier, on peut le faire, ça va prendre une demi-heure.
Ah oui.
Monsieur Bourassa avait hésité. Et puis il l'avait regardé. Puis là, j'avais très bien lu que M. Bourassa se rappelait de Pierre Laporte et du respect de la vie humaine.
Oui.
Il avait dit au général, et combien de morts?
Oh.
Quand il a eu dit cette phrase-là, c'était sûr qu'il ne voulait pas. Puis par après, il avait dit franchement, les morts. Je suis capable de vivre avec les critiques politiques parce qu'il avait été critiqué, bien sûr, pour un manque de décision, là.
Oui.
Il dit, je suis capable de vivre avec les critiques politiques, mais au moins, j'aurais pas un mort sur la conscience. Et ça, c'était, pour lui, c'était des valeurs, c'est une valeur vraiment profonde. C'était ça, sa démarche, finalement, dans toute la crise d'octobre. C'est Pierre Laporte. Point.
Mm-hmm. Oui.
Puis, bien sûr, il était très conscient, bien sûr, des graves injustices qui ont été faites à l'égard d'un nombre considérable quand même de Québécois qui ont été arrêtés là, sans raison.
Est-ce qu'il y a vu la fameuse liste d'arrestations?
Oui.
Parce que
sans doute, probablement.
Il y a eu toute une polémique autour de l'arrestation de Gérald Godin, qu'il connaissait,
ou
de Gaston Miron, ou des deux, comme des poètes. Et pourquoi arrêter des poètes?
Ouais. C'est ça, exactement. Je pense qu'il l'a certainement vu. Encore là, il pensait qu'il était pas être interrogé, point à la ligne, puis ça sent plus, là. Mais les gens ont été détenus. C'est mm-hmm. vraiment ça qui est.
Ben oui, longtemps, plus.
C'est vraiment ça qui est arrivé. Et oui, dans certains cas, ça a duré plusieurs semaines. Alors, puis évidemment, j'écoutais des commentaires récents, puis c'est sûr que les policiers avaient pas un comportement, des fois, des individus, pas la police comme telle, mais des individus pouvaient avoir des comportements tout à fait inadmissibles à l'égard des témoins.
Mm-hmm.
Mais il était en recherche de l'information, ça c'était la démarche fondamentale de toute cette histoire-là.
Juste pour revenir aux excuses, là, c'est sûr qu'il y a eu les chartes après, il y a eu des petites indemnisations, mais est-ce que ça serait une bonne chose que Justin Trudeau s'excuse, selon vous?
Sans doute, parce que à l'égard de ces personnes-là, c'est évidemment qu'il y a eu une grave injustice, comme je disais, il y a eu quelques démarches, évidemment, qui étaient sans commune mesure avec les préjudices que les personnes ont subis, là, quelques arrangements qui ont été faits avec des pertes, quelques indemnisations, entre guillemets, qui ont été faites, et surtout la charte. La charte québécoise était, à mon sens, l'excuse vraiment du gouvernement du Québec et à l'égard de ce qui avait été fait, ce que les gouvernements avaient eu comme comportement à ce moment-là, y compris le gouvernement de M. Bourassa, bien sûr, qui avait adopté ça, qui avait approuvé cette démarche-là, mais dans les conditions que je viens d'expliquer.
Abordons un tout autre sujet en terminant, Jean-Claude Rivet. Vous avez été sénateur de Stadacona pendant 22 ans, du 11 mars 1993 au 31 janvier 2015. Vous êtes donc retraité.
Il y a rien qu'à moi que des choses comme ça arrivent.
Oui, vous avez été retraité. Vous êtes retraité actuellement du Sénat, donc on peut s'imaginer que vous avez un traitement correct.
Les passions,
oui, mais récemment, vous écrivez sur Facebook, j'ai reçu un chèque de 300 $ du gouvernement fédéral. Je me demande bien si ce programme est bien ciblé pour les gens dans le besoin. Et, oui, c'est une bonne question. Même aux sénateurs qui ont quand même une bonne retraite, on envoie de l'argent fédéral. Donc, vous trouvez que c'est trop, c'est excessif, que c'est possible?
Ça, je trouvais ça un peu saugrenu, parce que d'autant plus qu'il n'y a aucune espèce de lettre d'accompagnement. Là. Je me demandais c'était quoi, pourquoi le gouvernement m'envoyait 300$.
OK.
Et puis j'ai regardé un peu sur Google, là, puis j'ai vu que c'était pour les personnes âgées, alors qui donnaient 300$. Mais ce qui m'a étonné, c'est que comment se fait-il que ce programme-là soit universel? Il me semble que le gouvernement fédéral dispose de nos revenus, là, il sait combien on gagne.
Oui.
Et puis il me semble que pour des gens je pense que des centaines de milliers de Québécois puis de Canadiens qui en a beaucoup, beaucoup plus besoin que moi et que d'autres qui ont les mêmes revenus que moi.
Mm-hmm.
On s'en est un peu surpris qu'ils n'aient pas gradué là, ce chèque-là en fonction des revenus des personnes. Mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, je ne sais pas.
Vous qui avez été dans les coulisses pour plusieurs crises, on a nommé crise d'octobre, crise d'Oka, puis ensuite comme parlementaire, vous avez été sénateur. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de crise actuellement du gouvernement fédéral? Justement, trouvez-vous qu'on donne trop d'argent ou...
Ben, je ne suis pas en mesure de l'évaluer comme tel, là, mais j'imagine que... Sur le plan, évidemment, les gouvernements, c'est pas propre au gouvernement canadien, là, c'est vrai.
Mm-hmm.
C'est vrai du gouvernement, de tous les gouvernements en Europe, on le voit. C'est le choix, la dichotomie entre la croissance économique et puis les mesures de sanitaires comme telles. Ils font un choix qui est toujours extrêmement difficile entre prendre des mesures restrictives, mais on sait que ça va nuire à l'économie. De l'autre côté, on a besoin de l'économie. Alors, pour tous les gouvernements, je pense que la gestion du gouvernement canadien est sensiblement de même valeur que celle en France, en Allemagne ou enfin dans les autres pays. Là. On ne parle pas des États-Unis à cause de Trump. Là.
Mais il envoie peut-être un peu trop de chèques à tout le monde.
Ben là, je ne sais pas dans quelle mesure si c'est une erreur que moi je l'ai eue, mais je ne sais pas si d'autres qui sont dans ma situation, je ne suis pas millionnaire, là, mais dans ma situation financière, je pense que je n'avais pas besoin de ça.
Ben, merci beaucoup Jean-Claude Rivet encore une fois.
Merci Rivet.
Jean-Claude Rivet, ancien conseiller de Robert Bourassa à l'époque de la crise d'octobre et ancien sénateur. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.